Bonjour à tous, c'est Rose. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un podcast qui m'a fait du bien à la tête et au corps. Adieu complexe de Malika Ménard nous plonge dans les pensées contradictoires de l'être humain qui voudrait cheminer vers l'acceptation mais qui se perd dans le doute, le jugement, le sabotage et la détestation de lui-même trop souvent. Malika reçoit des personnalités fortes qui, comme elle, ont réussi à sortir de ce mode de fonctionnement qui est la cause de la majorité de nos comportements destructeurs. On se juge, on se déteste, on s'anesthésie, on se punit, alors on culpabilise. Et c'est le retour au jugement. Ce cercle vicieux, on le connaît bien nous ici, dans Contradiction. Et Malika le décortique avec simplicité et intelligence avec ses invités.
Tu dis aussi que très tôt, tu as eu la sensation que parce que tu étais grosse, il fallait que tu développes d'autres qualités.
Ah oui. Bien sûr.
Être la plus intelligente, la plus drôle.
Bien sûr.
C'est réussi, hein. Je rigole bien. Depuis tout à l'heure, on peut dire que je rigole bien. Donc
J'adore. Ouais, clairement, bah, quand t'es grosse, tu sais faire mille trucs. J'ai fait de la natation à haut niveau, je sais faire du tennis, j'ai lu un nombre incalculable de livres, j'ai voyagé. En fait, quand t'es grosse, t'as intérêt à avoir un bagage comme as. Tu compenses.
Je vous laisse découvrir le tout premier épisode du podcast Adieu complexe de Malika Ménard.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Double Monde, création.
Cet épisode est enregistré en partenariat avec les Bains du Marais, un lieu de ressources profondes à Paris dans lequel on n'a pas besoin de se donner du mal pour aller bien. Spa, hammam, gommage, massage, cure, soins, rituel rebirth, l'intention première de Soledad Franco est la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit pour une beauté intégrative et une santé équilibrée. Et l'équilibre, c'est une quête permanente pour nous, humains, addicts ou pas. Visez l'harmonie et atteignez les Bains du Marais, 14 rue Saint-Fiacre, Paris 2e.
Ça détruit et puis surtout en fait ça te fait croire que tu retournes à la case départ et aux personnes qui nous écoutent je leur dirais que la première étape c'est de s'interdire de vomir parce que c'est la prise de conscience de ce qu'est un aliment. Il faut absolument, surtout pour se redonner le goût à la vie, le vrai goût justement, c'est d'avoir notion de ce qu'on mange, d'avoir notion de ce que fait, de ce qu'est un aliment pour le corps.
Je suis Rose et ensemble, dans cette nouvelle saison de Contradictions, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction ? Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquelles nous raccrocher? Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles? Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions.
Cet épisode a été enregistré en public à la Villa Iora.
Je l'ai aimé dès le début. Et quand je dis le début, c'est le jour où l'on s'est croisés, méfiantes et admiratives l'une de l'autre, en 2008, il me semble. Deux petites jeunes de la chanson française. Sauf qu'elle avait 19 ans et moi 30. Oui, mon invitée est née à l'orée des années 90 et ça la rend d'office fun, très pop et fan de Céline Dion. Ses parents lui ont offert un prénom qui voyage et elle lui rend honneur en égrenant ses mélodies depuis presque 15 ans jusqu'au continent asiatique. Mais Joyce est un faux ami, et je parle toujours du prénom, et n'a aucun lien, contre toute attente, avec Joy, la joie, mais plutôt Jous en celte. Tu savais ?
Non.
Signifiant.
Bonjour.
Jous. Signifiant champion.
Ah, oh, j'adore.
Et c'est ainsi que toute Joucette. C'est ainsi que toute la contradiction de mon invité tient en quelques lettres. Elle n'est pas ce que l'on croit. Avant la joie, la douceur, la légèreté qui la caractérise, il y a le challenge. C'est une battante, mais pas n'importe laquelle, de celle qui gagne. Toute petite, elle rêve déjà de chanter et d'être marchande de bonbons aussi. Elle compose ses premières chansons à 7 ans à peine. À 17 ans, elle contacte Michael Goldman pour lui suggérer d'écouter ses titres. Son audace est récompensée puisque le fils de notre Jean-Jacques préféré des Français lancera sa carrière sur son label communautaire My Major Company. Tout lui réussit. Même si sa carrière de vendeuse de bonbons est pour l'instant au point mort.
Ah, mais j'en ai pas beaucoup parlé, ça marche plutôt.
Et elle réussit dans tout ce qu'elle entreprend aussi, y compris son premier régime. Comme beaucoup d'entre nous, dans les années 2000, elle opte pour celui du docteur...
Monsieur Pierre Ducamp.
Que la British Dietetic Association désignera au passage comme le pire régime des célébrités.
Voilà, Pierre Ducamp.
Le Pierre Ducamp. Elle perd 8 kilos en un mois et demi. Presque trop facile. Alors elle continue et se laisse griser par les chiffres en chute libre sur sa balance. Et c'est le début de la fin. F-A-I-M, bien sûr. Elle pèse alors 35 kilos. Nous nous croisons d'ailleurs à cette période et ces os saillants me donnent la chair de poule, mais moi, comme toute personne qui peine à s'accepter et surtout à s'affamer, parce que la privation, ça n'a jamais vraiment été mon truc, je l'envie aussi un peu secrètement.
Wow.
Je sais, c'est malsain. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut en parler. Comme notre invité vient de le faire dans l'ouvrage Corps à cœur de Laurie Darmon, mais aussi dans sa chanson « Si je mange, je vais en enfer ». Et l'enfer, elle le côtoiera durant près de 10 ans. Les nuits à transpirer tout ce qu'elle regrette d'avoir avalé, l'obsession pathologique de la maigreur, la danse machiavélique des calories dans sa tête, le manque ou l'overdose, le secret, le mensonge, le dégoût de soi, une histoire d'addict en somme. Il n'y avait que le poids de l'amour pour éclipser cet amour du poids.
Oui, c'est vrai.
Personne n'applaudit. Hein. Je vais la refaire, vous applaudissez. Il n'y avait que le poids de l'amour pour éclipser cet amour du poids. Ah bah oui. Ah merci. J'aime beaucoup cette phrase qui avait pris toute la place. Hein. Parce qu'enfin, elle ne se définit plus par lui aujourd'hui et c'est la naissance de Julia, sa fille en 2020, qui changera tout. C'est un honneur pour moi de t'avoir en os et en chair.
Pour notre voyage de noces.
Mais oui, j'avais oublié que tu étais la reine de la galéjade et du calembour. D'ailleurs, si je mange, je vais en enfer, sera le titre de cet épisode parce que tu m'as mis un chaos technique. Hein. J'ai cherché longtemps un autre titre. Il n'y a pas mieux que si je mange, je vais en enfer. Donc merci Joyce Jonathan d'être là pour cette première fois en live à l'occasion de la sortie du livre Contradiction. Et nous sommes à la Villa Iora. Et je suis très heureuse. Toi aussi, tu as des origines péruviennes?
Presque, tout près. Tunisie, c'est pas très loin. Ouais. Mais on y mange également du poisson cru de temps à autre. En tout cas, je suis ravie d'être là pour revenir à des choses sérieuses. Et ça me fait un peu bizarre d'avoir cette introduction. Elle est mi-très fun, mi-très solennelle. Et oui, il était temps de faire un bilan sur ce qui s'était passé ces 10 dernières années. D'ailleurs, il y a des personnes qui me suivent depuis le tout début, qui m'ont vu beaucoup changer, évoluer, qui parfois me posaient des questions. Et puis même, mon entourage a été complètement choqué, en fait, quand je leur ai dit que je sortais cette chanson, « Si je mange, je vais en enfer », parce qu'ils m'ont dit « Mais tu nous en as jamais parlé, en fait ». Et je pensais que mon corps parlait tout seul. Et finalement, c'est vrai que c'est compliqué, c'est une maladie qui fait peur, qui isole et qui éloigne aussi les gens autour de nous parce qu'ils ne savent pas comment la prendre, cette maladie. Mais en tout cas, je suis ravie qu'on se retrouve sur une addiction, Kéren.
Bah oui, merci
beaucoup. Ça nous réunit, tout
ça. Oui, c'est vraiment... Mais on s'aime bien, on s'appelle même Josette et Rosette.
Absolument.
Donc on a quand même pas mal de... Oui, on a plein de... Un background, hein, toi et moi. On s'est retrouvés, toi et moi d'ailleurs, à une cure un peu...
Improbable. Je faisais 8 kilos et on devait manger.
Tu pesais 10 kilos.
Je faisais 10 kilos.
Et en plus, elle faisait donc une monodiète de pommes.
Non, j'ai refusé.
Oui, mais
c'est la seule fois où ma mère m'a appelée en pleurant.
Ne la fais pas.
Poids, en me disant je t'en supplie, ne fais pas.
Du coup, elle a demandé des brocolis à la place.
Mais
c'était un peu ça. Hein.
Ouais, c'était à peu près ça.
Alors, c'était un peu flippant. Bon, on commence toujours les épisodes en demandant aux invités quelle est leur définition de l'addiction. Est-ce que tu en aurais une en quelques mots?
Alors, l'addiction, c'est pas facile à dire. T'as compris?
Ah, non. L'addiction.
Mais, alors, ma définition de l'addiction, c'est... c'est pulsionnel, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, qui a un conflit entre ce qu'on a envie d'être et ce qu'on est. Et puis ça nous mène à être complètement addict parce que on est dans ce conflit permanent et très pulsionnel. Pour autant, souvent les addictions, ça nous empêche de faire notre métier, ça nous empêche de réaliser notre vie. J'ai l'impression que dans notre cas, ça nous a quand même pas totalement handicapé pour faire le métier qui nous passionne. Et on a finalement beaucoup, beaucoup de chance d'être assez passionné par ce qu'on fait et en général passionnel, parce que sinon, on serait morte dans un trou, maigre et voilà, et droguée peut-être.
Bah non, mais finalement, c'est fou que tu parles de ce métier, parce que peut-être qu'il nous a aussi un peu sauvés, mais peut-être qu'il nous a aussi un peu détruites. Parce que cette image qu'on
mais
demande...
Mais tu penses que ça ne serait pas arrivé sans ce métier, de toute façon?
Bah, on me demande
c'est pas
souvent.
En nous, quoi qu'il arrive.
On me demande souvent. Déjà, on me demande si le succès a mené à ça. Je pense que ça serait arrivé quand même. Moi, je le dis. Toi aussi?
Oui, moi aussi.
Mais aussi...
Ça a été exacerbé par notre métier d'image, mais je pense que ce serait arrivé quoi qu'il arrive, parce qu'il y avait, de mon côté, un terrain, en tout cas.
Ah, il y avait un beau terrain.
Voilà.
Bah, déjà, la Tunisie, hein, c'est un
déjà,
beau terrain.
Déjà, la Tunisie, c'est l'huile, un beau terrain. Et la Harissa.
Et la harissa.
Parce que ça harisse les poils.
Oh là 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 là, stop, voilà. C'est trop. Alors, tu as parlé de ce trouble du comportement alimentaire que récemment, et donc en ce mois de janvier 2024, je le dis pour les gens qui écoutent ce podcast, un témoignage dans le livre de Laurie Darmon, qu'on a invité d'ailleurs ici pour parler d'anorexie mentale. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu te reconnais aussi dans son témoignage à elle, parce que c'était quelque chose d'extrêmement rigoureux, ça streignait une vie militaire.
Ouais, ouais.
Donc, ce titre, entêtant aussi, en parle. Il est entêtant parce que je l'ai beaucoup écouté, tu me l'as envoyé.
Ouais.
Et j'ai hâte que vous puissiez l'écouter. Ça sera ce soir dans la nuit, non?
C'est ce soir à minuit, oui.
Ouais, il est incroyable, vraiment, c'est un refrain.
Merci.
Voilà, je ne vais pas le chanter. Il parlera à beaucoup d'entre nous, parce que si je mange, je vais en enfer. En vrai, il y a ce côté-là vraiment infernal de la nourriture. C'est diabolisé les aliments.
Oui.
Ça commence par rapport au premier régime, souvent.
Oui, alors pour moi, c'est exactement comme ça que ça a commencé, avec un régime et l'interdiction, en fait. Et je me suis mise à être ma propre ennemie parce que je m'interdisais des choses que je trouvais délicieuses, qui me faisaient envie. Et j'allais à l'encontre de ma personnalité parce que je sais que je suis gourmande. Ça fait partie de moi. J'aime saliver devant un truc, un fondant au chocolat.
Plus sucré, toi
aussi,
des
macarons. Hein. Je le suis un peu moins maintenant. De toute façon, je me suis dégoûtée de pas mal de choses.
Ouais, c'est ça.
Non, mais là, j'ai retrouvé un juste milieu. Et justement, c'est pour ça que j'arrive à en parler aujourd'hui. C'est que je me considère guérie. Et en fait, moi, je suis très gourmande. Et je me dis, c'est même l'appétit de la vie en général. Quand on est gourmand, c'est qu'on a envie de vivre des choses, on a envie d'avoir des émotions, des sensations. Et donc, j'allais complètement à l'encontre de qui j'étais et de mes pulsions, pour le coup. Et ce qui fait que quand ces pulsions étaient là malgré moi, parce que je luttais contre moi-même, je craquais de façon complètement folle. Alors, donc, pour revenir à ta question, moi, je ne pense pas avoir fait de l'anorexie mentale parce que... j'avais besoin de manger. C'était pas l'idée de ne pas me nourrir.
Tu peux te dire ce que c'est l'anorexie mentale?
L'anorexie mentale, c'est vraiment quand on veut complètement disparaître, qu'on ne veut pas manger et qu'on n'alterne pas nécessairement avec de la boulimie. La boulimie, ça va vraiment être des épisodes où on se gave de plein de choses.
On appelle des crises.
Voilà, des crises et qui est encore différente de l'aérophagie.
C'est pas l'aérophagie, c'est l'hyperphagie.
Ça fait de l'aérophagie.
C'est génial. Alors, l'hyperphagie, c'est quand on mange beaucoup trop, qu'on va exploser, mais qu'on ne vomit pas, c'est ça?
Oui.
Et ça fait de l'aérophagie, forcément.
Et des aérosols.
Ah, mon père a rigolé, je crois que ça le concerne. Okay. Alors, maman, on ne t'a pas demandé d'interviewer, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire.
Mais pas du tout.
Attendez, on va répéter la question de ma mère, c'est important. Est-ce qu'elle a été une petite fille grosse ?
Mais même pas. En fait, j'étais plutôt petite filiforme. Et
puisqu'on parle de ma mère, parlons de la tienne.
Mais ma mère n'était pas une petite filiforme. Et je pense que j'ai eu cet héritage émotionnel, puisque elle, depuis qu'elle est née, elle a peur de grossir. Et en fait, ça fait que mon modèle de référence, quand j'étais petite, c'était quelqu'un qui avait peur de grossir en permanence. Et donc le frigo était rempli que de fromage blanc 0%, de tofu à rien, et je la voyais jamais manger.
Tofu à rien, à rien comme la race aryenne.
Voilà, c'est ça. Et en fait, je la voyais jamais manger des pâtes. Elle avait diabolisé les pâtes.
Alors moi j'ai été élevée aux pâtes en revanche.
Bah ouais, mais après à côté de ça, elle m'a jamais dit il faut pas que tu manges ça. J'ai eu un accent belge en le disant. Mais elle m'a jamais interdit. Au contraire, j'ai deux grandes sœurs. Elles nous achetaient des danettes, des conneries à manger. Même s'il n'y avait pas des paquets de gâteaux toute la journée, on n'était absolument pas restreintes de quoi que ce soit. Mais voilà, au fil des années, mes grandes sœurs ont grandi. Elles ont 4 ans et 5 ans de plus que moi. Et elles ont eu donc leur adolescence 4 ans et 5 ans au-dessus de moi. Et je voyais le regard de ma mère sur mes sœurs qui les voyait changer, leur corps se modifier. Et je pense que j'ai beaucoup... J'ai vraiment fait une image de ce truc-là. Et j'avais hyper peur, moi, de décevoir ma mère et de grossir.
Tout à fait. Je vois ma sœur qui se reconnaît tout à fait. Non, mais parce que quand on est plus petit, on voit... comment les parents regardent les grands, mm-hmm. en fait. Oui. Et on se rend compte qu'on a peut-être envie de rester la petite fille, nous.
Hein? Il y a de ça.
Il y a ce truc-là.
Il y a l'idée d'être femme-enfant un peu...
À vie.
À vie. Mm. Et puis aussi, ma mère, c'est ma référence. C'est une maman, on sait ce que c'est. En plus, moi, j'ai vraiment grandi avec ma mère. Mes parents se sont séparés quand j'étais assez jeune. Et donc, l'idée de lui plaire et qu'elle valide et approuve ce que je fais, c'était hyper important pour moi. Et je pense que je suis peut-être un peu trop allée là-dedans. Et au final, donc, quand j'ai fait ce régime, je ne savais même plus pour qui je le faisais. Parce qu'elle validait vachement de trucs, genre, tiens, on va dîner chez telle personne, mais tu n'as qu'à prendre ton saumon à rien pour aller... tu vois. Et donc, elle me préparait mon doggy bag à rien pour que j'aille manger, tu vois, alors qu'en vrai, à ce moment-là, j'étais pas du tout grosse. J'avais un kilo de plus que ce que j'aurais dû avoir.
Et même si on l'est, en plus.
J'avais pas un challenge.
Ce qui est assez fou, c'est que ta mère te fait des réflexions quand tu as des phases où tu grossis. Donc, mm-hmm. tu prends 20 kilos en 6 mois, quand même, à un oui. moment donné. Tu fais 72 kilos.
Oui.
Et là, tu sens que le regard est voilà. Par contre, quand tu fais 34 kilos, rien.
Non, exactement. Alors, par la suite, puisque j'ai fait ce cycle quand même, je pense, 4 fois.
Oui, parce que c'est ça aussi qui fait que je me suis reconnue par rapport à la drogue et l'alcool. C'est qu'il y a des phases, on essaie d'arrêter, on revient, on repart, on se dit si on est guéri, on remonte. Et puis surtout, on fait que tout ou rien.
Exactement. Et c'est le vrai problème de cette maladie. Et c'est absolument pas comme ça qu'on s'en sort. Parce que si on continue à être dans la restriction permanente... Et le fait d'être trop dur, en fait, il faut avoir des challenges qui sont accessibles. Parce que si tu vas tout de suite trop loin, que tu lances ta canne à pêche beaucoup trop loin, t'attrapes pas de poisson. Non, mais tu vois, il faut avoir des petits challenges, des petits objectifs.
Un jour à la fois, surtout.
Déjà, qui sont encourageants et qui sont atteignables. C'était inatteignable pour moi de perdre 20 kilos en 2 semaines. Donc oui, je mangeais rien j'allais faire du sport de façon frénétique, donc j'allais perdre hyper vite. Mais ensuite, quand je craquais, je craquais démesurément parce que je m'étais fait trop de mal. Et puis j'étais épuisée parce que je m'étais imposée. Donc ça arrivait quand même beaucoup de fois.
Combien d'années en fait ça s'est passé comme ça? Sur 10 ans un petit peu.
Sur à peu près 10 ans. Donc après mon premier régime suite à Ducan,
on rappelle que c'est vraiment un truc un peu cétogène quand même.
Non, ça te gêne beaucoup, ouais, mais
cétogène, ça te gêne très bien.
Non, c'est plutôt protéines pures, protéines légumes, mais
Les pépés. et les PL.
Les PP et les PL.
Encore une histoire de PP.
Et en fait, parce que cétogène, c'est quoi précisément?
Oh, cétogène, c'est vraiment le gras. On a le droit au fromage, au gras. Enfin, c'est très protéiné.
Non,
très protéiné
aussi.
Tu comptes,
t'as pas le droit au fromage.
Oui, non, mais je veux dire, en tout cas, c'est très protéiné.
Ouais, c'est
énormément
juste
de viande.
Pas de sucre long, genre cétogène.
On l'a tous fait. Moi, je l'ai fait. Ou tout le monde l'a fait. Et en tout cas, moi, j'ai rien trouvé de mieux pour grossir que de faire des régimes.
Ah, mais évidemment.
Non, mais vraiment, à chaque fois que je ne fais pas de régime, moi, c'est-à-dire, il y a des moments dans ma vie où je vais décider un petit peu de faire attention, de manger moins le soir. Enfin, tu vois, des petites choses par-ci, par-là, ou de mettre à courir. Mais un régime où tu me dis, cet aliment, tu n'as pas le droit de le manger, tu peux être sûr que je prends 5 kilos.
Mais exactement. De toute façon, je pense qu'on est, quand on a un potentiel addict, l'interdiction ne nous convient pas.
Sauf que toi, tu es obligé de manger parce que la nourriture, on est obligé.
Exactement.
Alors que les addicts aux substances, eux, on préconise l'abstinence. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui, parfois, moi, m'a fait douter de l'abstinence. Parce que je me suis dit, si les... Petit coup d'œil sur la montre. Je me suis dit, si les gens qui ont un problème avec la nourriture arrivent à harmoniser, on va dire, et s'équilibrer, pourquoi est-ce que nous, addicts à des substances, on n'y arriverait pas, tu vois?
Bah non, mais c'est tout le problème, en effet, et c'est ce qui rend cette maladie très grave, mais aussi... les autres addictions restent très graves aussi, mais en effet, la nourriture, c'est vital. On en a besoin, c'est notre carburant. On n'a pas besoin de prendre une ligne de coke, on n'a pas besoin de fumer un joint, on n'a pas besoin de fumer une clope, on n'a pas besoin de boire un verre de vin. Mais tu as besoin de manger un steak et des pâtes et un petit déj complet le matin parce que tu ne tiens pas debout sinon et tu ne gères pas ta journée. Et en fait, c'est là où est tout le problème, c'est de définir le seuil où tu considères que t'es normal quand tu manges et puis tout d'un coup, tu vrilles et c'est plus normal. Et c'est super dur justement d'arriver à rendre tout ça ok en fait. Et chacun d'ailleurs est très différent avec tout ça. On n'a pas le même appétit, on n'a pas la même énergie à donner, on n'a pas le même quotidien.
Il y a des aliments en fait, par exemple, chez les groupes de dépendants anonymes, ça existe, c'est les OA, les outre-mangeurs anonymes, comme les NA et tout. Ouais. Mais ça fonctionne très bien. Hein. Je préfère en parler parce que ça marche très bien. Il y a des aliments interdits quand même.
Donc on sait le sucre quoi.
Évidemment, on sait que pour ces personnes-là, si tu commences à faire une tartine de pain beurre, tu vas manger tout le pain de mie et tout le beurre.
Ouais.
Et si tu commences à prendre un croissant, tu vas en prendre 15, on le sait.
Ouais. Bien. Alors moi,
en tout cas, au début,
aujourd'hui,
je sais, mais au début, en tout cas, peut-être.
Ouais, mais je trouve que c'est.
Toi, t'es pas pour, voilà.
Non, je suis pas pour. Ouais. Je suis pas pour parce que. Alors peut-être que juste pour éviter, par exemple, si tu as un rendez-vous de travail et que ça commence par un petit déj, en effet, tu te dis, je me lance pas le défi
commencer
de prendre
la journée
juste
comme
un petit
ça.
Bout
ouais,
de pain,
ouais.
Beurre.
Ça, c'est un gros défi.
Non, mais tu vois, alors que tu sais que potentiellement, ça va te faire vriller. En effet, mieux vaut s'éloigner du truc qui va te faire vriller. Par contre... le vrai idéal...
Il y a une vrille, en fait, quand même, qui s'opère.
Il y a une vrille, évidemment.
C'est-à-dire, tu la sens venir. Comment tu sens? C'est-à-dire, tu manges ce truc et tu sais que ça va être impossible de t'arrêter. Tu le sais, déjà?
Oui, alors, à l'époque, puisque, encore une fois, aujourd'hui, je n'ai aucun problème. Justement, je suis trop fière, quand je vais chercher ma fille, de prendre un petit bout de brioche au chocolat avec elle et je me dis que j'ai réussi ma vie.
Oui, parce que tu racontes que... Dans le livre de Laurie, tu racontes que... À l'époque, tu regardais les mamans partager le goûter et tu disais, je ne pourrais jamais faire ça.
Ah bah oui, je me suis dit... quand je vivais ça, je voyais les mamans donc avec leurs enfants aller les chercher à l'école et je me disais, mais moi, j'aurais volé le paquet de gâteaux à mon enfant, j'aurais tout mangé, il n'aurait même pas eu le temps d'en manger un, genre.
On est d'accord que pendant longtemps, moi, j'aimerais qu'on arrive quand même plus au comment plutôt qu'au pourquoi. Parce que le pourquoi, bon, on a compris, c'est toujours de toute façon, on consomme par manque de quelque chose. Tu le dis dans ta chanson, c'est un vide immense, il y a quelque chose à remplir, remplir ta panse, mais remplir aussi tes pensées. Mm-hmm. Pendant des années, tu as cette double vie qui est de t'alimenter un peu avec les gens pour faire semblant d'être normal et de t'affamer d'un autre côté, ou alors l'inverse, c'est-à-dire de faire genre que tu manges normalement et de faire des crises d'hyperphagie chez toi pendant 10 ans, c'est ça?
Oui, exactement.
Donc
c'est
tu
ça.
Te balades avec un tube de citrate de bétaïne, c'est ça?
Oui.
Ouais.
Ah, le citrate de bétaïne était un indispensable, et puis l'oméprazole, le gaviscon, enfin j'avais mon vanity de folle, quoi.
Mon vanity de
folle? Non, mais tu vois, genre vraiment, si je partais un week-end, j'étais obligée d'avoir ce vanity. J'alterne entre ces périodes
Est-ce que tu avais faim?
Oui, j'avais tout le temps faim.
Tout le temps, enfin même quand, ouais.
Ouais, bah en fait...
Parce que je vois des gens qui ne mangent pas et qui n'arrivent plus à avoir faim pendant des jours et des jours.
Oui, mais ça, c'est parce qu'ils font de l'anorexie, que leur oui. estomac est tout petit. Oui. Non, moi, le problème, c'est que mon estomac... Enfin, de toute façon, je n'avais plus de sensation ni de faim, ni de... Ma satiété était complètement déréglée. Mais oui, au-delà de ça, le fait de combler un manque, de combler ses pensées. En fait, je pense que pour tout le monde qui vit un TCA, il n'y a pas un facteur, mais il y a... c'est multifactoriel. Donc moi je sais que ça, c'est né d'un régime et de l'envie de plaire et surtout de satisfaire sans doute ma mère et je me rendais compte aussi que le regard des autres changeait autour de moi, parce que quand j'ai commencé à maigrir, je plaisais beaucoup plus, j'avais beaucoup de compliments.
Et donc, puis on se sent mieux en vrai.
Oui, on se sent mieux, c'est on se sent plus léger, mais jusqu'à un certain degré. Oui. Sauf que moi j'étais encore au régime quand je faisais 34 kilos, ce qui n'est pas normal. Et j'étais encore là à trier les aliments, à demander la sauce à part.
Là, j'étais là.
Donc, et t'étais là en plus.
Oui, j'étais là. À cette période-là, j'ai vu ça. J'ai vu dans ton assiette que tu enlevais un champignon même.
Champignon,
tu l'aimes bien, ouais. Non, il y avait autre chose. Tu pouvais enlever. Oui, enfin,
oui, peut-être une amande, par exemple.
Une amande, voilà.
Ouais. Mais voilà. Et en dehors de ça, j'étais entre deux albums. On est dans un métier qui nous donne le sentiment d'énormément exister quand on est en pleine actualité et de plus du tout quand on ne l'est pas. Et entre deux albums, c'est un vide immense. On n'est pas attendu au bureau, on est attendu par personne. Et en plus de ça, j'ai une relation avec, tout le monde le sait, je pense, le fils du président de la République, que je rencontre avant que son père soit président. Et les gens venaient me parler... En tant que belle-fille.
Tu dis ça pour pas qu'on pense que tu as été avec lui parce qu'il était fils de président.
Non, mais je veux dire, j'ai vu l'évolution aussi. Donc,
on pourra parler de Gabriel Attal après.
Quel relou. J'ai vu l'évolution des personnes qui, tout d'un coup, changent leur regard sur toi. C'est pour ça que je le précise. C'est que tout d'un coup, les gens venaient me parler uniquement parce que j'avais cette position-là sociale. Et en fait, c'était infernal parce que déjà que je me sentais assez vide à ce moment de ma vie, et c'était complètement amplifié par le fait que les gens viennent me parler pour ça.
Pourquoi tu étais vide à ce moment-là ? Enfin, qu'est-ce qui n'allait pas dans ta vie ?
J'étais entre deux albums.
Ouais, mais le couple, qu'est-ce qui... Il y avait quelque chose qui était
le couple, de
dur
toute façon,
à porter.
Au début, j'étais à fond, mais très vite, je me suis effacée. J'étais plus... De toute façon, j'étais pas dans le moment présent. Ma vie, c'était de penser à la bouffe. Non, mais tu vois, de faire des listes de ce que j'avais mangé, de quand même planifier mes prochains repas diététiques.
Ton premier rendez-vous avec lui, c'est dans une pizzeria, c'est
voilà,
l'enfer.
Exactement. Il me donne rendez-vous après qu'on ait eu bref.
Oui.
Bon, bref, il me donne notre premier date, vrai date, c'est dans une pizzeria. Et je me disais, c'est vrai que c'est sympathique. Et aujourd'hui, je serais ravie d'avoir un date dans une pizzeria. Ouais. Mais là, c'était l'angoisse absolue.
Tu t'es affamée pendant quelques jours.
Donc, je me suis affamée pendant quelques jours. J'ai commandé la pizza, mais je réfléchissais pendant 2h20. Est-ce que c'est... Parce que c'était la pizza de ma vie à ce moment-là. Est-ce que je préfère de la burrata ou plutôt de la roquette? Ou est-ce que ça va pas être un peu moins calorique, un peu moins pire, mais en même temps, c'est ma soirée, donc il faut que je me fasse plaisir. Et bref, et du coup, j'étais toute folle, quoi.
Avec ton vanity de folle.
Avec mon vanity de folle.
Extraordinaire. Ce qui est génial, c'est que tu penses que tu n'es pas malade parce que tu as une règle. Tu dis que... Enfin, tu croyais que l'addiction, le problème... Il y avait un vrai problème si ça influait sur ton métier.
Ouais.
Et donc, tant que tu peux travailler, toi, tu te dis, tout va bien. Enfin, je veux dire, en tout cas, tu sais qu'il y a un souci, mais tu considères quand même...
Je pensais que c'était temporaire.
Voilà,
je me suis dit, la semaine prochaine, c'est fini.
Mais est-ce que tu te considères comme addict, anorexique, boulimique, hyperphagique, toi, t'as un mot?
Tout.
Tout.
Ouais.
Tout.
Ouais, bah...
Est-ce
alors,
que t'as
pas,
eu d'autres expériences?
Pas hyperphagique dans le sens où... parce que hyperphagique, t'as pas d'épisode compensatoire. C'est-à-dire que tu fais que manger, tu deviens vraiment, vraiment obèse.
Et quand t'es arrivée à 72 kilos, c'est ce que t'as fait?
Oui, mais je faisais quand même énormément de sport à côté.
Tu mangeais vraiment beaucoup.
Et je mangeais vraiment beaucoup, mais oui, je faisais, je dînais trois fois.
Toi, c'est le sport, la compensation, c'est pas vomir?
Oui, c'était le vomi, je me le suis interdit très vite. Parce que je savais que c'était là, le gouffre était là.
T'as une sagesse aussi de savoir que ça détruit...
Ça détruit, et puis surtout, en fait, ça te fait croire que tu retournes à la case départ. Alors, aux personnes qui nous écoutent, je leur dirais que la première étape, c'est de s'interdire de vomir, parce que c'est la prise de conscience de ce qu'est un aliment. il faut absolument, surtout pour se redonner le goût à la vie, le vrai goût justement, c'est d'avoir notion de ce qu'on mange, d'avoir notion de ce que fait, de ce qu'est un aliment pour le corps. Et
c'est vrai que si on vomit pas quelque part, de toute façon, c'est ça qui fait qu'on va, on va avoir envie aussi d'arrêter ces crises-là et de s'en sortir.
Exactement.
Parce qu'il y a des filles qui, toute leur vie, bon, je sais pas, je vais pas rentrer là-dedans parce qu'en plus, je veux aller plus loin. Donc, ta souffrance, on la ressent parfaitement dans ce titre qu'on découvrira donc cette nuit. Si tu manges, tu vas en enfer. Mais si tu manges pas, aussi, c'est l'enfer. Et on a, il y a des gens aujourd'hui qui commencent à parler. C'est un peu comme le MeToo. Je sais pas comment on pourrait l'appeler, toi qui es toujours très drôle.
Bah, c'est le sujet tabou, le coming food. Moi, je dis que je fais mon coming food.
Qu'est-ce que tu attends, toi, de la sortie de cette chanson? Tu dévoiles que tu t'es construit un monde isolé de tout et des rendez-vous joyeux. Et tu dis une phrase très forte qui dit « Si je ne sais pas me nourrir, mieux vaut se laisser mourir. Mm-hmm. » Cette phrase qui est très forte, c'est de dire aux gens « Il ne faut pas qu'ils voient que je ne sais pas me nourrir. » Cette phrase est très forte.
Oui, bah oui, parce que j'avais honte, en fait... de me retrouver après avoir fait une crise, j'étais bouffie, j'avais...
Parce que ça se voit tout de suite.
Ça se voit tout de suite. De toute façon, ça se voit quelqu'un qui a un TCA. Souvent, on a le visage bouffie ou le visage plus gros que le corps. Et puis, ça se voit dans
parce
les yeux.
Parce que c'est la mastication aussi.
Ça peut se voir
aussi.
Sur les mains, ça peut se voir sur plein de choses. Oui, la mastication, ça fait gonfler les joues. Et en fait, j'assumais pas... De me retrouver, de faire comme si de rien n'était. De toute façon, j'avais parfois le cœur qui battait à 10 000 à l'heure parce que j'avais mangé trop de sucre. En fait, tu as l'impression d'être en gueule de bois permanente.
Ouais, je connais.
Sauf que moi, pour le coup, je ne connais pas.
Oui, parce que toi, justement, il n'y a pas d'autres trucs.
Il n'y a pas d'autres addictions.
Non, il n'y a pas l'alcool.
Non,
y a pas
je ne suis jamais droguée.
Le sport, un petit peu.
Alors, aujourd'hui, je fais beaucoup de sport, mais...
Enfin à l'époque, sport, l'histoire du sport, c'est ça qui est fou, c'est que tu fais beaucoup de sport, mais il n'y a aucun plaisir dans ce sport.
Ah ouais. Ah, je détestais.
Donc en fait, il n'y a aucun plaisir dans rien.
Si, dans la musique.
Que dans la musique.
Dans la musique et l'amour, quand même. J'adore aimer, j'adore faire des chansons et j'adore être en concert. C'est les moments où je me sens vivante et dans le moment présent. Mais par contre, après, dès que je rentre chez moi, je me sens très, très seule et très isolée. Mais après, à côté de ça, oui, j'ai pas d'autres addictions. Je bois très occasionnellement, je me suis jamais droguée. Donc vraiment, mon addiction, c'était ça, c'était la bouffe et c'est ce qui me faisait complètement vriller. Donc en effet, le sport, je ne prenais pas de plaisir. Et justement, il y a peut-être un an, parce que maintenant, je cours régulièrement et j'adore ça. J'ai vraiment découvert la sensation de courir et de lâcher prise quand on court. Et en fait, et franchement, le corps est très bien fait parce que plus tu cours et plus tu sais courir.
Et plus t'aimes.
Et plus t'aimes. Et en fait, t'es une voiture, quoi.
J'ai couru 5 bornes ce matin, j'étais tellement heureuse.
Wow.
C'est bien 5, non ?
C'est bien 5.
Ouais, c'est bien 5.
Moi, je trouve qu'il ne faut pas faire des trop longues distances. C'est ouais. Là que tu t'habilles.
5 tous les deux jours, c'est bien. Mais toi, tu cours tous les jours, non ?
Non. Non, je cours genre 3 fois par semaine. Ah, mais je fais 5, hein. Je fais pas
5
plus.
5 aussi ?
5 ou 7 max.
Ah, 7, c'est beaucoup. En combien ?
Je fais 10 km heure. Donc 5 km, 30 minutes.
5 km, 30 minutes ?
Ah oui.
Ah ouais, tu fais
parfois
fonces,
un peu moins. Bah, Audrey te le dira, je suis une vraie gazelle maintenant.
Ah ouais.
Mais
Audrey elle nous prépare le marathon, quoi.
Elle nous prépare le marathon.
Mais pour l'instant, elle fait 7. Donc bon, et tu sais que c'est x 7, hein.
x6,
pardon, c'est x7, 49.
Voilà. Et donc justement, il y a peut-être un an, je me suis dit cette phrase, je ne cours plus pour le score, ça ne m'intéresse plus, mais même globalement, dans ma vie, je ne cours plus après le score, je cours vraiment après la sensation que je vis à ce moment-là et le moment présent. Alors, c'est facile à dire, parce que quand on grandit, on est tourmenté par un milliard de trucs et on peut se prendre la tête juste du fait de grandir, de ne pas se sentir en sécurité dans sa vie, de se dire qu'on n'a pas assez accompli de trucs. Donc, c'est sans doute la maturité aussi qui me fait me dire ça. Mais je pense que voilà, en tout cas, j'ai passé cette étape-là et aujourd'hui, j'ai du recul et c'est pour ça que j'ai fait cette chanson, c'est pour ça que j'arrive à en parler puisque on s'est quand même vu beaucoup ces 10 dernières années et je t'en ai jamais parlé comme ça. Je niais quand même beaucoup de choses.
Tu m'as parlé.
Je t'ai parlé.
Fois,
c'est vrai.
C'est vrai que j'avais l'impression d'être privilégiée quand même parce que je sentais que t'étais très seule. J'avais l'impression que t'avais personne à qui dire ça.
Ben, je le disais à personne, absolument à personne.
Et donc, tu vois, comme on n'était pas ultra amis et hyper proches, le fait que tu me le dises, ça me faisait vraiment sentir privilégiée dans le sens, et puis surtout, j'avais peur que tu, que tu n'aies personne à qui parler. Mm-hmm. Pour que tu me le dises à moi, tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais souvent... Enfin, je
t'as senti qu'il y avait un petit terrain...
Déjà, non, mais je pense
moi, c'est l'Algérie.
Mais je pense qu'on a eu une complicité assez vite, déjà. Et puis, finalement, de parler à quelqu'un qui ne te connaît pas trop, t'as l'impression que t'es pas jugé. Et c'est ça qui est très dur en famille, par exemple. T'as le sentiment d'être tout le temps jugé. Donc, quand tu vas dire un truc, t'as la honte. Et puis, d'ailleurs, on se l'est dit, le TCA, c'est un truc qui fout trop la honte. On a beaucoup
les gens
moins
préfèrent
de mal.
Parler,
ah, on préfère dire qu'on est drogué que boulimique.
Moi, ouais, j'étais héroïnomane. Par contre, dire que tu
c'est
fais
top.
Des crises d'aérophagie. Ah ouais. C'est jamais top, l'aérophagie.
Non.
Mais je veux aussi terminer. Je ne sais pas si tu as encore un peu de temps ou pas.
3 minutes.
Merde. Alors.
J'aurais aimé que ça dure, mais
moi aussi.
Plus.
Moi aussi.
Je chante ce soir, c'est pour ça.
C'est ça, je suis obligée d'aller en accélérer sur la fin et c'est dommage parce que c'était mes meilleures questions.
Ok.
En tout cas, donc, je vais moi-même faire un petit récap. Donc, tu as tes premières victoires, c'est quand tu manges un plat de pâtes ou un coulant au chocolat, que tu te dis je peux le faire, je peux me faire plaisir. Et ça, c'est assez merveilleux de lire ce genre de choses.
Oui, alors ma vraie première victoire que je conseille pour ceux qui traversent un TCA, c'est de ne pas changer les garnitures au restaurant et de ne pas enlever les sauces. Déjà parce que tu as beaucoup moins faim en fait quand tu manges une sauce, quand tu manges une garniture qui est normale.
Tu
qui
faisais
est adaptée
tout enlever
et
elle allait en cuisine, s'il vous plaît, vérifier ce que les
ouais,
gens
ouais,
cuisinaient.
J'avais vérifié que la personne.
Elle allait regarder.
Ouais.
Non, mais parce que je suis allergique au sucre et à l'huile.
Voilà, exactement.
Tu t'inventais des allergies.
M'inventais,
quoi.
Ouais.
Et en fait, tu as un déclic quand même, c'est ça qu'il faut arriver là quand même. C'est que souvent on consomme par manque d'amour. Après, ça peut être l'amour de soi, hein, l'amour mm-hmm. de quelqu'un, de soi. Il y a un vide, il y a quelque chose. Et donc, pour guérir, la solution, c'est de mettre de l'amour. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu es tombée enceinte un petit peu comme un miracle, puisque tu n'avais plus tes règles, en plus, avec ce trouble du comportement alimentaire.
Tout à fait. Je ne savais pas si j'étais fertile ou non, puisque je n'ai pas eu mes règles pendant presque 5 ans. Et en fait, je prenais quand même toujours la pilule, et même mes fausses règles ne voulaient pas venir. ne s'accueillait plus chez moi. Et donc, quand j'ai arrêté ma pilule et que j'ai décidé de tomber enceinte, je suis tombée enceinte le lendemain. Donc, c'est assez miraculeux. Et c'est vrai que bah, quand j'ai vu que j'étais enceinte, j'étais totalement chamboulée déjà parce que je me disais, bah, mon corps fonctionne.
T'en étais où, toi, déjà, de ton poids et de ta façon de manger à ce moment-là?
J'étais pas guérie, hein. J'étais plutôt dans ma fourchette haute. J'étais genre plus 20 kilos. Quoi,
ah, t'as commencé ta grossesse à plus 20 kilos, c'est pas
mal, c'est mais bien. Du coup, j'ai fini ma grossesse plus mince qu'avant. Parce que comme je me suis guérie pendant cette grossesse...
Tu t'es sentie pleine, en fait, t'avais plus besoin de remplir.
Oui, il y a ça. Et puis en fait, il y a surtout le fait que la maman, c'était plus ma maman, mais c'était moi. Je devenais la maman et je devenais celle qui dirige ma vie et qui a la maîtrise de ce que je donne à mon corps, puis avec l'envie absolue de me faire du bien pour celle qui est en moi et pour celle qui grandit en moi. Donc, y avait quelque chose de très naturel. En plus, quand on est enceinte, bah, moi, j'ai eu des nausées les 3 premiers mois. Donc, fatalement, je mangeais... Enfin, je ne pouvais pas me faire 3 bols de céréales le matin. Je n'avais pas d'appétit. J'avais des nausées, vraiment. Et puis, à partir du moment où les nausées sont parties, j'ai tenté un jour en me disant « Ah, je vais encore trop manger. » Et en fait, très vite, je me suis dit « Mais je n'ai pas envie de ça. » Pourquoi je vais faire ça? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que je vais combler? Là, j'avais envie de faire plein d'autres choses plutôt que de manger. Et puis surtout, j'avais plus rien à m'interdire parce que j'avais le droit de grossir. J'avais
le droit. C'est merveilleux.
Ah oui. Et...
Moi, j'ai adoré aussi la grossesse. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce
non, mais
que
là, c'est la première fois que je ne devais pas justifier mes kilos, en fait. Je ne devais pas dire pourquoi j'avais grossi et qu'on n'allait pas me dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive?
Là, parce que les gens commentaient en plus tes silhouettes sur les réseaux sociaux. C'est horrible, ça, de voir d'un coup, mais qu'est-ce qui y arrive? Danser avec les stars, c'est passé des choses horribles quand même pour toi.
Oui, d'autant que danser avec les stars, je n'étais pas grosse du tout.
Non,
j'étais vraiment normale.
Mais tu racontes, donc tu t'affamais. Et donc, tu n'arrivais pas à faire ce qu'il fallait faire,
non,
en fait.
Non, j'avais zéro énergie. En fait, je faisais le régime du camp pendant Danser avec les Stars. Donc, je m'autorisais des pommes potes sans sucre ajouté. Genre, avant 17h, donc j'avais aussi mes règles. Enfin, pas mes règles physiques. mon règlement.
Les pommes potes, alors, les gars, par contre, c'est important. Hein. Les pommes potes, jamais après 17h. jamais.
Plus maintenant. Maintenant, pomme pote 24 heures sur 24. Et en fait, ça fait que je devais calibrer mon énergie, je devais optimiser les moments où j'allais vraiment me donner à fond, et ce qui est déjà débile quand tu fais une telle aventure. Et en plus, j'avais tout à apprendre. Ça aurait pu être un moment vraiment épanouissant en termes d'apprentissage de la danse, en termes de plein de choses. Et j'étais là à lutter contre moi-même et surtout à essayer de me donner de l'énergie que je n'avais pas, quoi.
Ce qui est drôle, c'est quand même quand on te propose danser avec les stars, tu te dis ça va être une bonne occasion de maigrir.
Ouais, grave. Moi, je l'ai vu comme une thalasso. Hein. Thalasso avec les stars. Hein.
Et qu'est-ce que cette maladie, parce qu'on appelle ça quand même aujourd'hui, il faut le dire, c'est une maladie mentale.
Oui, ouais.
Mentale. Donc, normalement, on l'a toujours en soi, cette maladie, elle est là. On arrive juste à s'en départir. Qu'est-ce que cette maladie t'a enseigné? Parce que, en tout cas, moi, dans mon livre, je te l'ai offert, il est là, il est dédicacé, il est pour toi.
Oh là là, quel rêve,
je raconte
merci.
Quand même que, pour moi, je pense que c'est une chance d'avoir à traverser parfois des troubles, des choses qui sont... forcément qui nous emmène à nous connaître mieux et à comprendre en fait qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui ne nous en fait pas et pourquoi on est venu presque sur Terre. Moi, j'ai eu l'impression à un moment donné de comprendre des missions.
Alors, je vois ce que tu veux dire.
Mais non.
Non, mais c'est finalement une façon positive de voir les choses. Après, je m'en serais bien passée, hein, franchement. Parce que j'ai le sentiment quand même d'avoir un monde intérieur. Et puis toi aussi. Enfin, je veux dire, on est habité quand même par quelque chose du fait d'écrire des chansons, d'avoir des phrases évidentes qui nous viennent. Je me sens quand même très habitée par mon monde intérieur. Donc justement, pour moi, le TCA a fait fuir tout ça. Ça a fait fuir tout cet instinct, tous ces trucs évidents. Et j'aurais préféré avoir plus de solidité. Je pense que le TCA naît aussi d'une solidité émotionnelle et du fait de se sentir profondément sécure, de se dire oui. Que tout fout pas le camp du jour au lendemain, que si jamais tu fais une bêtise, bah, tout le monde ne fuit pas, par exemple. Et moi, je pense que j'ai cette sensation depuis que je suis petite, parce que j'ai sans doute grandi avec ces trucs-là, avec ces petits traumatismes, de me dire si jamais je loupe un truc, j'ai l'impression que ma vie est foutue et surtout qu'on m'abandonne, en fait. C'est des trucs qui sont souvent venus dans mes chansons, la peur de l'abandon et de me dire que j'ai toujours eu peur d'être abandonnée, justement.
Bah, c'est beau, en tout cas. Bah, écoute, mon père, tu lui as donné le timing, c'est ça, pour partir? Bah, on aurait aimé rester très longtemps, mais moi
j'aurais
été tellement
ravie.
Tu te rappelles combien de fois je t'ai demandé de venir dans Contradiction?
Ouais.
Et puis,
combien de fois
je
savais
que tu avais des choses à dire, mais c'était pas le moment.
C'était
donc
pas
il a fallu attendre le moment. Je voulais te demander si tu te sentais guérie, tu nous l'as dit.
Je me sens guérie aujourd'hui, bien sûr.
Tu dis dans cette chanson, tu dis, même si ce ne sera jamais fini, cette fois c'est différent car je vous ai tout dit.
Oui, parce que c'est très libérateur. Je pense que je me sens profondément libérée. Profondément libérée.
Donc ça commence par ça, la guérison.
Ça commence par ça, par le fait de le dire, de l'extérioriser, de l'assumer. Enfin, en tout cas, c'est pas que ça commence par ça, non. Ça commence par des challenges. Ça commence par le fait d'accepter que c'est une maladie, d'accepter qu'on est malade. Et puis de le dire, c'est plutôt que ça finit par ça, tout en se disant que rien n'est acquis dans la vie. Rien.
C'est important.
Absolument rien. Sur aucun plan. Donc, j'en sais rien, peut-être que je vais vivre un truc qui va me rechambouler. Mais en tout cas, je ne pense pas que maintenant, la nourriture soit un sujet. C'est-à-dire que si je suis chamboulée, peut-être que je vais me droguer à la place.
Ben, je te remercie, Jess, et je te souhaite une longue carrière. Parce que honnêtement, je pense que tu fais partie des filles qui savent aujourd'hui le mieux faire des chansons. Tu sais faire des chansons.
Oh,
mais c'est vrai,
c'est
tu fais des chansons,
je te retourne
un
le
couplet,
compliment.
Un frein, c'est d'une évidence. C'est aussi simple que toi, en fait.
Oh,
voilà. Et j'aime ce que tu fais. J'aime ce que
mignon.
Tu fais, j'aime qui tu es.
Oh.
Et je suis trop contente que tu sois venue. Merci à tous.
Moi, je t'adore aussi. Tu es un être exceptionnel.
Et bonne soirée.
Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradictions.